Eh bien, je vous souhaite la bienvenue à Aime l'été, Chantal Lavoie avec vous. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ah ben, j'avais toute mon introduction, finalement, j'ai perdu ma feuille. Alors, je vais vous dire comme ça, de quoi on va parler aujourd'hui. Eh ben, on va parler d'une exposition fort intéressante au Centre Phi, bien sûr, une exposition de la japonaise Yayoi Kusama. Vraiment, ça fait fureur en ce moment. Alors, on va parler de ça. On va également parler... d'un musée maritime, et oui, musée maritime à Saint-Joseph-de-la-Rive. Également, on va parler, et puis là, on va parler d'une balado aussi dans le cadre de ce musée, d'un balado fort intéressant, Femme au pays des goélettes. Également, on célèbre la biodiversité du côté d'un autre musée, le musée de la biodiversité du Québec. Alors, c'est ça, on en parle avec un parcours très intéressant en forêt. Et puis, dans les prochaines minutes, il sera question d'hypersensibilité avec notre chroniqueuse bien-être.
D'être sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sensible, je sais, moi aussi ça veut me tuer. D'être sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. Tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise quand tu te prends en plein cœur. Sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans ton monde, tu chantes aux étoiles et câlines la terre. Tu sens notre mère qui gronde, à bout de force mais ne peut plus se taire. Tu sens la souffrance comme une bombe, le tic-tac en sourdine. Les puissants qui nous mènent à la tombe et se moquent de notre sort en prime. J'aimerais te dire que ce monde des villes finira par se réveiller, mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil. Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé. Ton sens si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sens si je sais, moi aussi ça va y me tuer. T'es ton sens si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. Avec ta petite gueule d'ange, tu nous fais voir des masques colorés. Tous ces gens qui te croient innocent, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Avec ta petite gueule d'ange, tu laisses croire et ne semble qu'indiquer que dans ta tête y'a que des fleurs, des sourires, des papillons et du chêne vanier. Je ressens ta souffrance, je la vois, je l'écoute. Être enragé, déçu, c'est normal, mais ce n'est pas la seule route. C'est à toi d'exprimer ta beauté, d'éclairer de tes yeux. Si autour de toi rien ne brille, à toi d'être fort et d'y croire pour eux. Dans ce monde qui fourmille de fantômes, on t'en fera des croche-pieds. Cherche en toi cette lumière au cœur d'un humain. De ce qui n'y paraît. Ne laisse pas l'ignorance te duper. Ne crois pas à leurs mensonges. Ils te donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont. Existe en toi bien plus que ce qu'on t'a inculqué. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça va y me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Être sans si je sais, moi aussi ça va me tuer. Ba da 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 si c'est vrai. Et les autres doivent pas qui tu es. Pour sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer. D'être sensible, c'est vrai. Et les autres doivent pas qui tu es. D'être sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer.
Belle chanson de Zaz, Trop sensible. Et oui, cette chanteuse française et cette sensibilité qui est parfois exacerbée, ben on va en parler justement avec notre chroniqueuse, en fait notre chroniqueuse bien-être, voilà Julie Châtelet. Bonjour.
Bonjour Chantal.
Et oui, alors effectivement, cette hypersensibilité qui touche oui. Apparemment quoi, peut-être enfin un bon pourcentage de la population, peut-être 20% semble-t-il.
Ah oui, ben en fait, l'hypersensibilité, c'est que là, maintenant, on en parle de plus en plus, mais il y a vraiment un gros pourcentage là, de la population. En fait, plusieurs personnes ne sont même pas au courant qu'ils sont hypersensibles, et de plus en plus, c'est pour ça que même au niveau des statistiques, c'est difficile à savoir, parce que vu que c'est une émotion, c'est un petit peu plus difficile que dire un diagnostic de santé mentale.
D'accord. Alors, c'est pas nécessairement un problème de santé mentale, Julie.
Non.
Mais parfois, on dit que ça pourrait être un trait de caractère.
Mais en fait, c'est plus qu'un trait de caractère. C'est vraiment, l'hypersensibilité, c'est vraiment relié à tous les sens. Alors, quand on parle des sens, on parle autant de la vue, l'odorat, le goût, auditif, c'est intuitif, kinesthésique. C'est tous les sens qui sont en hyper sensibilité, ça veut dire qu'ils sont plus développés que la normale.
D'accord. Alors ça, évidemment, ça nous fait réagir, mais pas nécessairement positivement. Ça peut devenir très négatif, finalement, ou en fait très lourd à porter à un moment donné.
Oui, bien c'est ça. Plus on va, en fait, moins on va connaître ce que c'est et plus on va être affecté, parce que c'est comme un influx d'informations qui va rentrer, en fait, ça passe par le cerveau, et le cerveau, il sait plus quoi faire comme différence avec toutes ces informations-là. C'est ça, en fait, qui devient vraiment, vraiment intense. Et lorsqu'on se connaît, lorsqu'on le sait, bien, on va être en mesure de mettre des stratégies en place, mais sinon, on peut être, tout d'un coup, on pourrait se sentir dépassé, découragé, fatigué, parce que c'est des gens qui ont beaucoup d'empathie, qui vont ressentir les émotions des autres en plus de leurs propres émotions. Alors, rapidement, on peut vivre ça et que ça soit désagréable.
Ouais, c'est ça. Donc, on peut perdre un petit peu, enfin, se perdre là-dedans, effectivement,
oui.
Pas savoir qu'est-ce qu'on doit prioriser aussi dans tout ce flux de d'émotions. Et puis,
oui.
Alors, on fait quoi, là, à partir de ce moment-là? Comment on fait pour, quelle stratégie on préconise?
Bien, la première étape, là, c'est apprendre à se connaître. Ça, ce que ça veut dire, là, c'est que, parce que si la personne, elle ne reconnaît pas dès le début, là, qu'elle a une hypersensibilité, elle va avoir tendance à souffrir, à se culpabiliser d'être différente. Et ça, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est qu'on s'informe. On va lire des livres sur le sujet, on effectue des recherches, on fait des formations. Comme il y a un auteur, si on tape son nom, là, Fabrice Midal, mm-hmm. qui est lui-même un écrivain hypersensible, philosophe. On peut aller voir qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça. Et en fait, c'est vraiment intéressant parce qu'il dit que, oui, ça peut être difficile à vivre, mais que lorsqu'on apprend à se connaître, ça devient finalement un cadeau et ça devient un don.
Ah, c'est ça, oui. Ça peut être une force,
oui.
Finalement.
Une très grande force, exactement.
OK, alors ça peut être utilisé positivement.
Oui, c'est ça. Ensuite, l'autre étape, là, la deuxième stratégie, c'est arrêter de considérer cette hypersensibilité-là comme un défaut. Parce que beaucoup de gens, souvent, c'est ça qu'on va entendre. Souvent, l'hypersensibilité, elle a été associée aux femmes. Ah, les femmes, vous êtes trop émotives. C'est ça. Alors que finalement, ben, c'est ça qui fait aussi qu'on est capable d'avoir autant d'empathie et d'être capable de prendre soin des autres, finalement. Donc, c'est ça, c'est d'arrêter de voir ça comme un défaut. Et moi, je vais juste donner un petit exemple personnel pour vous montrer que oui, ça peut être un vrai de vrai cadeau, cette hypersensibilité-là. Ben moi, je fais mon entraînement à la canne blanche, bon, avec mon intervenant, tout ça. Et on est en train de marcher. Il me dit, OK, lève la main chaque fois que tu vas sentir quelque chose dans ton environnement. Moi, j'ai les yeux bandés, là, je vois absolument rien. Et tranquillement, je lève la main et je lève la main. Et là, à chaque fois, il me dit qu'est-ce que c'est. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que je suis en mesure de savoir s'il y a une clôture, s'il y a des briques sur le mur versus de la vitre, s'il y a des arbres. Oui, oui, vraiment. Et là, il n'en revenait pas. Il dit, ben voyons, il dit, en 14 ans, j'ai jamais vu ça à ce point-là. Et là, il m'a même dit, devine, il dit, je te fais essayer de trouver un banc de parc, tout simplement, avec aucune information. Et je l'ai trouvé avec la sensation de chaleur qui était différente sur mes jambes.
Même. Oui, ah ben, c'est ça. Donc, vous avez développé finalement un sens, un autre sens. Étant donné bon, que vous avez des problèmes de vision vous-même, alors c'est sûr que vous avez quand même une sensibilité accrue à ce niveau-là de sentir les choses différemment, de sentir dans tous les sens. Là.
Oui.
Pas juste au niveau de l'odeur, mais ça fait partie d'eux. Ouais.
Exactement. Et c'est là que ça devient une grande force pour quelqu'un qui a une limitation, un handicap, une différence. C'est d'essayer de même la développer davantage, c'est d'apprendre finalement parce que comme moi, ben c'est plus de oui, je ressens tout ça, mais après ça, c'est d'être en mesure de dire qu'est-ce qui est important parce que je peux rapidement me sentir submergée par toutes ces informations-là.
Ça peut finir par, ça peut être menaçant parce que vous sentez des choses que les gens ne sentent pas nécessairement toujours. Alors, donc votre corps est ultra réceptif, mais c'est vrai que ça peut être envahissant aussi.
Et c'est pour ça aussi que des fois, c'est ça que je me rends compte, c'est qu'une voiture peut être loin de moi, mais moi, j'ai l'impression qu'elle va me foncer dessus, là, littéralement. Alors là, automatiquement, je me braque, je me mets en mode, je dois sortir rapidement
de
l'endroit
survie.
Où je suis, en mode survie exactement. Et c'est là que ça, c'est finalement, c'est pas ça, c'est mon hypersensibilité qui devient comme un peu négative parce que la voiture est même pas proche.
C'est ça, donc vous laissez submerger à ce moment-là. Donc, forcément, il y a bon, on dit que est-ce que vous croyez que les gens qui sont hypersensibles peuvent aussi être plus introvertis, un peu plus solitaires? Est-ce que vous pensez que c'est ça va avec un peu?
Oui, en fait, il peut avoir ce côté-là parce que lorsqu'on est hypersensible, on a besoin de retourner dans notre petite grotte, je vais dire
dans
comme ça.
Dans votre bulle, oui.
Oui, dans notre bulle parce que comme on est tellement sensible à tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais ça fait qu'à un moment donné, on a besoin de revenir à quelque chose de plus calme, ce qui veut dire d'avoir des moments où est-ce qu'on va pouvoir relaxer en silence, aller se promener justement dans la nature, où est-ce que là, il y a juste des petits bruits calmes.
C'est ça. Donc, pensez à se reposer. C'était votre dernière, dernière recommandation. Alors,
oui, parce que c'est vraiment important. Quand on va vivre toutes sortes de situations qui viennent vraiment nous envahir, ce qui est important, c'est ça, c'est vraiment de faire des trucs... nous, avec nous, dans le calme, avec moins de stimuli.
C'est ça, exact.
Ouais,
de s'éloigner un petit peu de ça. Alors, Julie Châtelain, ça a été très intéressant, vraiment un sujet très différent de ce qu'on a dont on a parlé jusqu'à présent, mais vraiment fort intéressant. On se retrouve la semaine prochaine, chère Julie.
Oui, parfait.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup.
Bonne semaine, bye-bye.
Bonne semaine, bye-bye.
Eh bien, voilà ce que nous entendions. C'était une musique pour l'artiste japonaise Yayoi Kusama, musique d'improvisation à la flûte, à la guitare et à la batterie par un collectif de jazz réunissant Cherry Pyle, Max Ridgway et Randall Colburn. Enfin, Colburn. Enfin, j'espère que je prononce bien les noms. Alors, cela dit, nous allons accueillir, bien sûr, Marie-Hélène Lemaire, responsable de l'éducation à la Fondation FI. En fait, on va parler de cette première exposition de cette japonaise, Madame Kusama, qui, en fait, cette exposition sera présentée jusqu'au 15 janvier. Bonjour, Madame Lemaire.
Bonjour.
Bon, alors, c'est vraiment tout un événement que cette exposition. Après Toronto en 2018, c'est donc au tour de Montréal d'accueillir les créations de cette japonaise qui a 93 ans, il faut le dire. Alors, c'était une exposition très attendue et, bon, ça fait quand même pas si longtemps que là que c'est commencé cette exposition. Ça va se poursuivre jusqu'au 15 janvier, mais déjà, plein de gens se sont, en fait, ont pris des billets. Et là, je pense que c'est à partir de septembre. Enfin, les prochains billets, là, c'est autour du 15 août. Je pense qu'on pourra les prendre pour septembre, même si cette exposition est gratuite.
Oui, exactement. Donc, à chaque 15 du mois, donc le 15 août, les gens peuvent aller sur notre site Internet à midi, puis réserver des billets. C'est pas, justement, c'est gratuit. Tout est gratuit à la Fondation FI. C'est gratuit de venir voir l'exposition, mais au moins, ils réservent une place. Puis donc, on continue tout le temps de la même façon. Le 15 septembre, les gens pourront aller sur la billetterie à midi pour le mois d'octobre.
D'accord. D'abord, bon, juste vérifier, j'ai bien prononcé son nom, Yayoi Kusama, hein, c'est ça?
Oui, c'est très bien.
D'accord, bon, parfait. Alors, cela dit, donc, cette exposition, parlez-nous un peu de cette dame très, très spéciale quand même. C'est une dame qui vraiment... qui rayonne à travers le monde par ses œuvres. Et puis, en fait, même au niveau du design, enfin, il y a des, je pense à Louis Vuitton qui a fait appel à ses services pour ses sacs à main, entre autres, et puis ses collections et tout. Alors, parlez-moi-en un peu de cette dame.
Ben oui, en fait, Yayoi Kusama, c'est une grande artiste contemporaine, puis c'est une des artistes contemporaines qui est la plus connue mondialement. Elle est particulièrement connue par ses grandes installations immersives, des grandes pièces à l'intérieur desquelles on entre et puis il y a une expérience lumineuse et puis de rythme de lumière et puis de miroir tout autour de nous. Et en fait, son travail vient chercher, les gens recherchent le type d'expérience immersive qu'elle propose. Et nous, dans l'exposition, en fait, ce qu'on aime bien démontrer aux visiteurs, c'est que l'artiste a 93 ans maintenant, donc elle a débuté son travail il y a très longtemps, puis elle a commencé au Japon, puis ensuite elle est arrivée à New York dans les années 50-60, où il y avait beaucoup, beaucoup d'aide. C'était vraiment le milieu de l'avant-garde en art contemporain, puis elle a fait sa place comme une artiste très avant-gardiste dès les années 50 et 60. Donc, elle a commencé à créer, par exemple, on peut dire que le fondement de son travail, c'est la nature. Mm-hmm. Elle-même est née à Matsumoto, qui est une ville au Japon qui est entourée de montagnes, qui est vraiment un grand milieu naturel. Puis sa famille était, en fait, possédait une ferme semencière et puis elle a grandi parmi les champs de fleurs et les champs de citrouilles et de légumes et tout. Puis elle dessinait déjà toute petite au cœur de ces champs-là. Fait que c'est vraiment une expérience fondatrice qui est au cœur de son travail. Quand elle est arrivée à New York, elle a voulu justement recréer par ses peintures ou des grandes installations immersives, des sculptures environnementales. Elle voulait recréer un peu cette expérience d'immersion dans les champs de fleurs, dans les champs de légumes. Puis elle utilise en fait un motif pour se faire un motif qui est très associé à Yayoi Kusama,
ouais,
qui est
tout
le
à fait.
Poids.
Qui est le poids.
Alors elle, c'est ouais. Ça, exactement.
Il y en a partout des poids. Mm. Elle a fait ouais. Parce que bon, elle produit même en fait des t-shirts. Enfin, ces motifs sont grandement enfin utilisés partout là. En fait, c'est ouais. Vraiment sa caractéristique là, première. Là. Vraiment les poids, les points aussi forcément. On dit les poids, mais ça peut être perçu comme des points également. Ouais.
Oui, oui, complètement. En fait, quand je parle de sa relation à la nature qu'elle avait depuis toute petite, elle conçoit la nature comme étant vraiment, et puis ça, c'est très avant-gardiste aussi pour l'époque, elle a toujours conçu la nature comme étant un milieu où elle se sentait en égalité avec tout ce qui était le non humain, les plantes, les fleurs, les animaux. Donc, et aussi,
c'est,
elle a.
C'est un rapport à l'univers, Madame le maire, hein? C'est un rapport à l'univers en même temps.
Oui, exactement. Donc, cette nature auquel elle est si attachée, ben, en fait, pour elle, cette nature, elle est connectée au cosmos. Donc, dans ses œuvres, il y a toujours cette volonté-là, justement, de procurer aux visiteurs une expérience immersive, non seulement, justement, d'un environnement qui peut sembler être un environnement naturel, mais un environnement cosmique. Donc, on a l'impression d'être plongé dans des constellations, dans ces installations de lumière. Puis le poids ou les points qui se démultiplient dans ses œuvres, ben, c'est une façon, justement, d'aller prendre de l'expansion puis d'aller jusqu'à dépasser les murs de la galerie pour aller jusque dans le cosmos.
C'est ça, donc vraiment mesurer en même temps l'infini de l'univers là, qui est sans limite à l'aide de ces petits points. Alors, c'est vraiment donc une artiste complète parce que, bon, autant peinture, sculpture, installation, des œuvres graphiques, des films aussi.
Oui. En fait, c'est une artiste multidisciplinaire. Si on revient à l'époque à New York, dans les années 50-60, elle a fait de la peinture, elle est devenue sculpteur environnemental, ce qui était très nouveau à l'époque, là, de créer des sculptures tellement grandes qu'on enveloppait le visiteur. Mais elle a aussi commencé à faire, elle a fait des performances très politiques pour s'opposer à la guerre du Vietnam,
oui,
par exemple.
Autres,
elle a aussi fait, entre autres, un engagement politique par la performance. Elle est poète également. Elle a fait, très tôt, elle a fait des vêtements. Elle a eu sa ligne de vêtements qu'elle a toujours. Et c'est ça, elle est écrivaine, elle a écrit sa propre autobiographie, elle a écrit des poèmes. Donc, c'est ça, c'est une artiste multidisciplinaire.
Alors, c'est pourquoi, évidemment, et aussi avec son âge, évidemment, c'est quand même phénoménal parce qu'elle continue toujours à créer, bien entendu. Et ce qui est particulier, là, il faut quand même le souligner, ce qui est particulier, bon, d'abord, c'est sûr qu'il y a un caractère obsessionnel dans son travail, bien entendu, mais donc, il y a une problématique aussi de santé mentale chez elle qui fait qu'elle a décidé, elle a pris la décision d'aller vivre dans un hôpital psychiatrique. Ça fait déjà presque 40 ans de ça.
Oui, exactement. Donc, en fait, dès qu'elle était enfant, Yayoi Kusama évoluait dans un milieu familial très conservateur, très strict. Personne, surtout pas sa mère, acceptait qu'elle cherche à devenir artiste. Et donc, elle cherchait souvent à aller s'immerger dans les champs de fleurs comme une façon de se conforter, mais en même temps, elle a eu très jeune des problématiques de santé mentale qui, par exemple, ont commencé à ce moment-là. Elle a commencé à avoir quand elle était dans les champs de fleurs, elle a eu une expérience assez traumatisante où elle sentait que, justement, elle avait des auras de lumière, puis elle sentait que le champ de fleurs se démultipliait très, très rapidement, puis qu'elle perdait sa personne dans cet espace.
C'est ça, elle avait des hallucinations, carrément.
Oui, exactement. Donc ça a commencé très jeune, puis elle a toujours été très affectée par des problèmes de santé mentale, et elle le dit elle-même, en fait, son art lui permet de recréer ces expériences de problématiques de santé mentale pour un peu les contrôler ou se les approprier. Et donc, elle a vécu tout au long de sa vie ces problématiques de santé mentale. L'art l'a aidé à survivre. Puis quand elle est revenue au Japon dans les années 70, elle était vraiment au plus bas. Elle avait beaucoup, beaucoup de problèmes de dépression et d'anxiété. Puis elle a décidé justement d'aller dans un hôpital psychiatrique. Puis elle y est restée depuis, en fait.
C'est
depuis
ça.
La
et
fin
puis
des
elle,
années 70.
Elle s'en va à son atelier à tous les jours quand même pour faire son travail. Alors, c'est fascinant. Et puis, bon, juste parce que là, le temps passe déjà. Et puis, je voulais vous dire qu'on allait vivre une expérience particulière quand même d'immersion en même temps quand on visite l'exposition. On est plongé, je pense même, dans des petites pièces là où on a toute cette espèce de dispositif lumineux où on se sent presque dans l'univers. Comme
oui,
des étoiles.
Oui, exactement. Puis c'est ce qu'elle appelle, c'est Infinity Room. Hein, quand
ça.
Je disais que très tôt, elle a voulu faire des œuvres d'art tellement immersives, elle travaillait déjà à ça dans les années 50-60, mais elle a peaufiné son art jusqu'aux installations Infinity Rooms dont vous parlez, qu'on en a dans l'exposition que les gens peuvent expérimenter. Donc, c'est une expérience où on entre à l'intérieur d'un espace immersif et il y a un jeu justement de lumière et d'ombre et de miroir. Puis chaque pièce est unique. Hein? Il y en
c'est
a qui
ça.
Sont un peu plus cosmiques, il y en a qui sont un petit peu plus naturels. On a l'impression d'être plongé dans une un peu comme une forêt lumineuse. Et pour d'autres, c'est un peu plus comme justement être plongé dans le cosmos.
Ah oui,
et enfin. Dans ses mystères.
Alors, l'exposition, je le dis en français, un ballet de lumière envolée dans l'univers. C'est au Centre Phi qui célèbre son 15e anniversaire en passant. Et puis, Marie-Hélène Lemaire, merci d'être venue nous en parler de cette exposition de la japonaise Yayoi Kusama. Très intéressant.
Parfait.
Fascinant.
À la Fondation Phi.
Oui, d'accord. À la Fondation Phi, voilà.
Oui.
Merci beaucoup, là.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Aime l'été.
Et oui, deuxième demi-heure de l'émission Aime l'été, notre rendez-vous quotidien pour apprécier les plaisirs de cette belle saison. Saison qui ne manque pas de possibilités, en tout cas quand vient le temps de larguer les amarres. Et nous sommes là, bien sûr, pour vous faire découvrir des lieux fort intéressants à visiter, comme par exemple un musée maritime dans Charlevoix. Justement, il en sera question de ce musée maritime à Saint-Joseph-de-la-Rive dans les prochaines minutes après cette musique. Au revoir.
Vague ailette, le nez dans le vent. Vague ailette, au port on t'attend. Demain tu pourras, si la mer est docile, coller tes flancs blancs dans les fiers bois du quai. Vague ailette, le nez dans le vent. Vague ailette, au port on t'attend. Mais ce n'est qu'un rêve, et tu le sais bien. Depuis longtemps la mer t'a brisé les reins. Rêve goélette, le nez dans le vent. Rêve goélette, qu'au port on t'attend. De fiers capitaines d'à peine 11 ans, debout sur ta proue, font des rêves blancs. Vague ailette, le nez dans le vent. Rêve goélette, qu'au port on t'attend.
Voilà, c'était Tex Lecor qui chantait cette chanson intitulée « Va goélette ». Tex Lecor, auteur, compositeur, interprète et peintre québécois, décédé en 2017 à l'âge de 89 ans, après une première carrière de chanteur qui le fera connaître partout au Québec. Hein, il se consacre entièrement à la peinture et aux arts visuels de la fin des années 70 jusqu'à son décès. Figure bien connue de la télé, hein, rappelons que c'est la chanson « Le frigidaire » qui sera marquante dans sa carrière. Une chanson qui a quand même connu un tel succès qu'elle sera traduite en 10 langues. Sur ce, nous allons justement parler de goélette avec Marianne Rainville. Bonjour!
Bonjour, Madame Lavoie.
Bon, directrice Bonjour. Générale du Musée maritime à Saint-Joseph-de-la-Rive, dans la belle région de Charlevoix. Et on va parler vraiment de ce qui nous attend en allant ce musée. Vraiment, notamment, on parle d'exposition, bien sûr, mais aussi de balado. Et ça va être le clou, notre sujet... notre beau sujet, femme au pays des goélettes.
Oui, effectivement.
C'est une belle aventure, ça.
Oui, ah, ça, c'est une belle aventure et peut-être, le savez-vous, mais peut-être pas vos auditeurs. Moi, je prendrai ma retraite le 30 août.
Oui, c'est ça, c'est vrai, j'allais vous le dire.
Ouais. Oui, et j'aurai travaillé 5 ans au Musée maritime de Charlevoix et je crois que la contribution la plus importante que j'ai pu apporter au musée, c'est de m'être intéressée aux femmes au pays des goélettes.
Mmh,
alors
ça.
Donc, ça a donné une exposition qui s'appelle « Elle ». Alors, c'est une exposition qui raconte en 20aine de tableaux, je dirais, la participation des femmes à cette industrie là du cabotage qui s'est fait en goélette pendant à peu près 150 ans au Québec.
C'est ça, c'était l'activité économique, quoi, finalement, oui, on transportait la marchandise.
Oui, on transportait de la marchandise, mais surtout, c'est que le fleuve Saint-Laurent servait d'autoroute à ce moment-là.
Oui.
Et Saint-Joseph-de-la-Rive, c'est assez normal que le musée maritime soit installé à Saint-Joseph-de-la-Rive parce que c'est le village au Québec où on a construit le plus de goélettes.
Ah.
Et mais on a souvent l'impression que les goélettes, c'était une affaire d'hommes, hein, parce qu'on bûchait le bois pour faire les bateaux, puis après ça, on les construisait, puis c'était souvent les mêmes hommes qui bûchaient que les enfants de la famille, puis ils devenaient finalement les membres de l'équipage.
C'est ça, c'était les marins,
oui, c'est ça qu'on mettait à l'eau. Alors donc, mais les femmes ont eu, au fil des temps, des rôles importants. D'abord, elles ont été elles ont été évidemment les cuisinières, les boulangères, etc., etc.
C'est ça, les mères qui s'occupaient des enfants, fait qu'ils faisaient tout.
Oui, et elles ont été des grandes gestionnaires aussi très souvent, et entre autres, en 1946, quand on va créer à Saint-Joseph-de-la-Rive un chantier naval où est aujourd'hui installé le musée maritime, 4 femmes sur 20 actionnaires de la compagnie vont investir. Évidemment, c'est des femmes qui sont liées au cabotage, soit parce qu'elles ont hérité de bateaux de défunts maris.
Ah ben, il y a ça aussi. Il y en a qui devenaient veuves. Hein,
oui, c'est ça. Que ce soit à Saint-Siméon ou à Petite-Rivière-Saint-François, où par exemple, on a retrouvé, et on parle d'elle dans l'exposition, elle, une dame de 93 ans cette année, Alida, qui a navigué avec son père pendant 6-7 ans. Elle le remplaçait autant à la roue qu'à la cuisine.
Ah oui, parce qu'elles apprenaient aussi à naviguer, finalement.
Oui. Quelques-unes ont navigué, elles sont rares. Mais M. Côté, qui est un amateur de goélettes, qui va publier un livre qui malheureusement est expiré, on n'en trouve plus d'exemplaires, qui s'appelle « Les goélettes du Saint-Laurent ». Dans « Les goélettes du Saint-Laurent », M. Côté, c'est lui en fait qui va allumer la mèche dans mon esprit, réserve une place aux femmes et il dit « Elles ont toutes fait sur les goélettes ce que les hommes ont fait, mais on ignorait souvent leur contribution et leur participation ». Et plus on s'en vient vers l'ère moderne, donc dès que les bateaux ont des radios pour communiquer avec la Terre, les femmes vont devenir ce qu'aujourd'hui on appelle pompeusement les brokers, hein, c'est-à-dire qu'elles vont s'occuper de la vente, entre autres, des voyages et tout ça, parce que maris sont sur l'eau, puis il y a des compagnies, des marchands qui veulent des voyages, donc qui veulent se faire livrer ceci ou cela, et qui prennent contact avec les familles qui ont des goélettes, et donc les femmes vont un peu devenir les brokers. Et elles sont à l'origine du musée maritime. En 1981, quand le village s'éteint un peu économiquement parce qu'on ne construit plus de bateaux, les femmes vont avoir cette idée de faire un musée qui raconte l'histoire des goélettes.
C'est ça, elles sont à l'origine du musée.
Oui, elles sont à l'origine du musée. Alors, donc, c'est normal que 40 ans plus tard, l'année dernière, on ait pensé à souligner le rôle des femmes au pays des goélettes. Et ça s'est traduit à travers une exposition qui s'appelle « Elle », mais également un balado qui s'appelle « Femmes au pays des goélettes ».
Ça, c'est drôlement intéressant.
Et qu'on peut écouter, c'est un balado de 6 épisodes d'une 20aine de minutes avec des prestations mais également des entrevues avec des femmes qui ont vécu les goélettes. Et on retrouve le lien sur le site Internet du musée.
Oui, ça, c'est très intéressant. Donc, pour les gens qui ne peuvent se déplacer encore là, c'est toujours vraiment... on peut juste en allant sur votre site et puis aller voir... Enfin, après ça, il y a un lien YouTube pour aller voir, pour aller entendre, c'est-à-dire ces histoires. C'est quand même 300 ans de relation avec la mer, alors, avec la mer, avec le fleuve, finalement, alors, ses épouses, ses mères, ses cuisinières, ménagères, chefs de famille, comptables, entrepreneurs, enfin, elles ont tout fait, ces femmes, et puis c'est à travers ça qu'on peut suivre l'histoire. C'est Marie Grégoire qui qui fait la narration de ça, l'animation. Et puis bon, vous avez même de la musique, Stéphane Tétrault, le violoncelliste.
Le
grand Stéphane Tétrault qui fait la musique. On a une chanteuse également, donc c'est vraiment très intéressant à écouter. Vraiment, ça nous plonge dans cette histoire. Enfin, alors ça, c'est vraiment intéressant. Et puis bon, il y a ça, mais bien sûr qu'on peut voir des bateaux aussi tout de même sur le site.
Oui. Alors, si vous venez au musée maritime, on a 4 bateaux en exposition. On a d'autres expositions sur la navigation. On a une exposition sur la navigation à voile. On a une exposition de photos sur la fin de l'ère des goélettes. Il y a les bateaux. Il y a l'exposition permanente où on vous explique de A à Z comment on construisait et comment on naviguait les goélettes. Et cette année, on a un nouveau produit que moi, je trouve absolument sympa, notamment à faire avec des ados. On a inventé un sac d'évasion. Donc, vous louez le sac qui est bourré d'énigmes compliquées et vous avez 2 heures top chrono pour prendre contact avec les goélettes à travers des énigmes à résoudre. Et on peut faire des équipes jusqu'à 5 personnes. C'est une belle façon. Les enfants au musée, ils ont beaucoup de plaisir parce que ils entrent dans la timonerie, ils se prennent pour les capitaines. Mais nos adolescents, on les ennuyait un peu avec nos cartels, nos photos. Et donc, on a inventé ce jeu-là qui fonctionne très bien. On a des familles qui le louent tous les jours, qui louent les sacs tous les jours. On a 5 sacs à louer et, comme je vous dis, c'est top chrono 2 heures. Et si vous faites tout le jeu, à la fin, vous aurez tout compris de ce que présente le musée maritime et vous aurez une autre façon de saisir cette réalité qui a été si importante pour le développement du Québec.
Et en fait, quand il fait moins beau, justement, dans cette magnifique région de Charlevoix, ben au moins, on peut occuper nos jeunes en faisant ce genre de parcours d'énigmes et tout.
Exact.
En fait, on sait qu'en 1998, il y a eu quand même un incendie qui a détruit 3 de vos bateaux qui étaient bien préservés jusque-là. Et puis là, il y en a qui vous ont fait don de d'autres bateaux.
Il va avoir on n'a pas eu de don, on les a achetés.
D'accord.
Il y a l'Auto-Québec qui nous a donné la Marie-Clarisse, qui était une goélette à voile bâtie en 1923, qui aura 100 ans l'année prochaine. La Marie-Clarisse, elle a été bâtie à Terre-Neuve, mais elle a été à 3 reprises restaurée par les artisans du Québec dans les années au 20e siècle. Mm-hmm. L'Auto-Québec en a été propriétaire pendant quelques années. L'Auto-Québec l'utilisait je cherche l'expression française, j'allais dire pavillon, front of the house. Et ils invitaient les grands joueurs et tout ça. Et finalement, l'Auto-Québec a décidé de la donner au musée maritime et nous veillons sur cette goélette à voile, mm-hmm. qu'on peut visiter en venant au musée. Et on se prépare pour 2023 à célébrer le 100e anniversaire de la Marie-Clarisse. Et voilà. Et donc, mais les 3 goélettes que nous avons perdues par le feu étaient 3 goélettes qui appartenaient à la famille des Gagnés.
C'est ça, la fameuse famille des Gagnés, très importante aussi.
Moi, je dis souvent, ils sont au fleuve, ce que les bombardiers ont été à la motoneige.
Oui, c'est ça. Donc, on peut quand même les suivre. Il y a toute une exposition virtuelle, les des Gagnés 2 siècles en goélettes. Il y a également, vous avez une expérience multimédia, là.
Alors ça, c'est dans la cale de la Saint-André. Ouais. La Saint-André, c'est un bateau qui a été bâti à la Malbaie par la famille Gagnon. Et dans la cale du bateau, on présente une exposition multimédia qui, en 10 minutes, vous fait vivre ce que pouvait être un voyage en 1956 sur une goélette. Et comme je dis, parce qu'il y a une tempête dans notre expérience multimédia, les enfants généralement ont peur puis se collent sur leurs parents. Alors, ça marche et c'est une façon rapide de vous amener à bord. On y était.
Bon, enfin.
Et puis on a une exposition dans le pavillon des pilotes qui présente la navigation à voile et la difficulté de ce que ça voulait dire faire un voyage à voile au 19e siècle. Et surtout, ça présente et une façon qu'on a eue de présenter le travail des jeunes. Hein, parce que, vous savez, au 19e et même jusqu'au 20e, on embarque sur les goélettes à 11, 12, 13 ans et on passe notre vie. Là. 50 ans, ces bateaux, c'était facile, facile.
C'est ça.
Et donc, ça fait aussi partie de l'histoire des goélettes, le travail des jeunes qui commençaient très jeunes, parce qu'il fallait un peu qu'ils se collent, notamment à leur père, pour apprendre le fleuve, parce qu'on sait que le fleuve Saint-Laurent...
C'est très complexe à naviguer, ouais. Là. C'est pas n'importe qui peut le faire. Très
complexe. Exactement. Et on n'était pas équipés, que ce soit à la fin du 19e ou début 20e, on n'a à peu près pas de matériel de navigation. Là, hein?
C'est ça.
Et donc,
des points de repère souvent visuels. Enfin,
oui, c'est ça. Les points de repère.
Toute une transmission.
L'expérience. Alors donc, c'est ce qu'on appelle la formation par compagnonnage. Et il fallait que dès que les jeunes garçons avaient fini le primaire, souvent, on les embarquait sur les bateaux. Et ils apprenaient de leur père et ils poursuivaient l'expérience, bien évidemment.
En tout cas, vous maîtrisez bien votre sujet, hein, puis bon, on vous souhaite une bonne retraite. En tout cas, chose certaine, cette femme et goélette, là, vraiment, vous en avez fait un sujet de mémoire. Alors, vraiment, c'était une vie, c'était toute une vie, beaucoup de résilience pour ces femmes, une histoire de résilience, d'enracinement et puis de solidarité aussi entre femmes.
Et comme j'aime à dire, Mme Lavoie, elles ont surtout mis au monde tous les marins.
Et voilà, il y a ça aussi, en plus. Elles ont eu des maris marins et puis des enfants marins. Enfin, bon, bref.
Alors, je vous souhaite une belle fin d'été.
Merci beaucoup, vous aussi.
Je vous invite tous en Charlevoix, au Musée maritime de Charlevoix. On est ouvert 7 jours semaine.
Merci. Et puis, bon, il y aura aussi une journée particulière, je pense, c'est le 7 août également.
Oui, c'est dimanche.
Oui, le dimanche. C'est ce dimanche.
Tout est gratuit au musée ce dimanche, incluant les jeux pour les enfants, de l'animation, etc., etc. Alors, bienvenue.
D'accord. Au revoir, Mme Rainville, et
revoir,
bon
Mme
été.
Lavoie.
Bonne retraite
bon
à vous.
Vent.
Au revoir.
Bon vent. Au revoir.
Thank you.
comme c'est beau. Eh bien, quelle belle musique pour célébrer la biodiversité. Alors, c'était bien sûr du Vivaldi que nous écoutions. Et on va s'entretenir avec Carole Belle-Rose, directrice générale du Musée de la biodiversité du Québec. Bonjour.
Bonjour, Madame Lavoie.
Alors, ce musée, quand même, à Bécancour, hein, ça, c'est près de Trois-Rivières. Donc, et on va parler de plein de choses, évidemment, parce qu'il y a plein de choses qui nous attendent là-bas. Mais on va, entre autres, parler de l'écho des origines. C'est un nouveau circuit de jeux interactifs en forêt présenté par le musée. Et puis, c'est présenté, c'est tout nouveau. Là, c'est présenté jusqu'en octobre.
Oui, certainement. Alors, ce qu'il y a de particulier de l'écho des origines, c'est que c'est le soir, forêt, à la noirceur. On part par petits groupes de 8 personnes maximum, à toutes les 5 minutes, entre 19h et 22h. Alors, ce qui est plaisant, c'est qu'on vous offre une branche interactive avant de partir. Mm-hmm. Et cette branche-là, c'est le pic à tête rouge qui vous sert de guide. Donc, cette branche-là, elle va éclairer votre chemin, elle va vous parler, elle va vous donner toutes les informations pour faire les jeux en cours de route.
Alors, c'est une sorte de lampe de poche, façon de parler.
Une lampe de poche, mais elle change de couleur.
C'est ça, elle nous éclaire en même temps.
Exactement, oui. Elle vibre, elle nous parle. Ça, c'est ce qui est de plus magique, c'est que la branche nous parle, nous dit quoi faire exactement. Et c'est toute une histoire de la biodiversité du fleuve Saint-Laurent, des rives du fleuve Saint-Laurent, de la vallée du Saint-Laurent. C'est qu'on part des glaciers, ensuite la mer de Champlain qui a fait place au fleuve du Saint-Laurent et le fleuve du Saint-Laurent. On aborde toute la biodiversité qui fait en sorte que c'est une entrée dans le continent américain et qui passe au travers de Québec et qui est la source de vie de plein de gens qui demeurent ici. Là.
Parce qu'on parle donc de la préhistoire. Alors, ce musée qui est en fait, vous dites un musée de type scientifique, dans le sens que vraiment, le musée a quand même pour mission la mise en valeur et la protection vraiment du patrimoine naturel.
Oui.
Et puis là, bien sûr, du fleuve, entre autres. Alors,
Exactement. Puis on sensibilise les gens beaucoup, tant le jour que le soir. On sensibilise les gens, à protéger notre planète, mais à la sauver, parce qu'avec les années qui s'en viennent, avec tout ce qu'on entend, on voit que la planète, elle a besoin d'en prendre soin si on veut la garder encore longtemps, puis si on veut rester longtemps en vie, là, parce qu'on est dans la chaîne alimentaire. Là. Alors, c'est important. Alors, on fait prendre aux gens connaissance que leur rôle sur la Terre est excessivement important, du plus petit au plus grand.
La biodiversité, effectivement, qui en prend un coup depuis un bon moment. De nombreuses espèces menacées, mais aussi certaines espèces qui ont disparu, bien sûr, et ça, c'est à tous les niveaux, là.
Exactement.
C'est pas juste animal, bien sûr.
Non, c'est ça. À tous les niveaux. Exemple, notre pic qui parle au travers de la branche interactive, il est, lui, en voie d'extinction. Alors, c'est pour ça qu'on l'a pris comme personnage type pour faire la randonnée de soir. Alors, il fait vraiment voir aux gens le long des sentiers pour leur dire, écoutez-moi, ma famille, on n'a plus de place pour vivre. Alors, c'est vraiment pas une légende, c'est une histoire de la vraie vie, là, de notre pic à tête rouge dans notre région. Alors, il y a 21 stations et la branche est interagit avec chacune des stations. Alors, c'est pour ça que ça prend 90 minutes faire l'activité dans la forêt. Ça passe très vite. En plus, quand les gens reviennent de leur périple, ils disent, « Oh, mon Dieu, ça a été magique! C'est magique! Qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place, justement, pour être plus conscient de nos gestes chaque jour? » Alors, on est des vecteurs de changement, nous, les êtres humains. Il faut s'en servir de ce pouvoir-là sur la Terre.
Oui. Alors, donc, évidemment, vous vous servez en même temps de la technologie. Alors, c'est vraiment un beau circuit, un beau parcours, vraiment très innovateur aussi. On parle beaucoup ces temps-ci de sentiers lumineux, tout ça.
Oui.
Mais vous le faites à votre façon, vraiment.
Exact.
Et avec une orientation bien particulière aussi.
Oui, madame, et j'aime beaucoup souligner cette chose-là, c'est qu'on n'est pas comme les autres activités nocturnes. On est vraiment une activité où est-ce que c'est nous qui faisons l'interaction. Alors, c'est pas juste de regarder du lumineux. Nous, on interagit et on a du lumineux automatiquement, mais une action qui se passe. Alors, les gens ont l'impression d'être très occupés tout le long du chantier pendant une heure et demie.
Et
dans le jour, pour ceux qui veulent venir voir le musée durant le jour, c'est que le musée est un musée scientifique. aquatique avec une collection vivante. Alors, on a une collection de reptiles, amphibiens, poissons qui sont en vie, les mammifères du Québec et les oiseaux de proie du Québec. Alors, on a 3 circuits dans la journée et on a le circuit le soir qui est interactif. Alors, les gens peuvent très bien commencer leur journée avec les activités dans le jour. On a un 360 degrés qui s'appelle Voyage au fond du Saint-Laurent qu'on voit à 2 reprises dans la journée. Ensuite, le circuit Explo Découverte où on parle de la préhistoire des dinosaures et où il est représenté 6 fois dans la journée. Ouais. Et la faune urbaine qui est mammifère et oiseaux de proie qui est, lui, pour sa part, présenté 5 fois dans la journée. Alors, au total, on a 13 départs dans la journée pour accueillir les gens et le soir, on a 28 possibilités de départ pour l'activité nocturne. Alors, les gens qui veulent venir sont vraiment capables à toute heure du jour de faire une activité.
Bon, parfait. Et puis, bon, alors évidemment, comment ça remonte à la préhistoire, enfin, de là l'écho des origines aussi pour votre parcours. Votre parcours enfin, interactif finalement. Oui, c'est ça, votre nouveau parcours. Ouais. C'est ça. Et puis, ce parcours-là, ben, il va être quand même, on va pouvoir le faire là jusqu'à l'automne.
Oui, exactement. Présentement, on est 7 soirs par semaine jusqu'au 14 août. Après le 14 août, c'est du mercredi au dimanche. Et après la fête du travail, qui est le 6 septembre, ça sera tous les vendredis et samedis jusqu'à la fête de l'Action de grâce incluse, c'est-à-dire le 10 octobre. Alors, tout le mois de septembre et jusqu'à la mi-octobre, 2 soirs semaine, vendredi et samedi. Et les départs vont être plus tôt. Au lieu de commencer à 7h, on va pas partir à 18h30. Jusqu'à 21h30. Alors, on va avoir une demi-heure de plus de départ parce qu'il va faire noir plus
c'est
tôt.
C'est ça aussi, on les y va avec la clarté.
C'est ça, les journées commencent à diminuer un peu. Le soir, on s'aperçoit que vers 20h20, là, ça commence à être vraiment sombre.
C'est ça, le soleil se couche un petit peu plus tôt, finalement.
Exactement, oui, il nous quitte un petit peu plus tôt. Voilà. Et ce qui est de particulier, c'est que le musée a 25 ans cette année.
C'est ça que j'allais dire, c'est une belle façon de célébrer votre 25e anniversaire, ce nouveau parcours.
Exactement. On a 25 ans derrière nous, mais on a encore 25 ans devant parce qu'on est très populaire à date, là. On a des records de fréquentation. On a terminé avec 25 000 visiteurs l'an dernier.
Ah,
et cette année, on a une augmentation d'environ 10 à 15. Si ça se maintient comme ça, on va dépasser le 30 000, ce qui est vraiment très, très réconfortant pour nous parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille pour monter. Mais là, on est rendu à une certaine vitesse de croisière qui font en sorte que les gens de partout présentement viennent nous visiter, surtout le soir. Il y a des gens de plusieurs régions touristiques. On est vraiment contents du succès que les gens nous aident à atteindre.
Parfait. Puis en fait, ça veut dire potentiellement de nouveaux projets avec le succès que vous avez, ça c'est bien.
Oui, certainement. D'ailleurs, on est en train de préparer quelque chose qui s'appelle le Jardin des pollinisateurs parce que dans le cadre du 25e anniversaire, on a une activité par saison qu'on présente au public. Alors, le Jardin des pollinisateurs va être inauguré à la fin août et il va avoir vraiment un parcours très éducatif sur c'est quoi les pollinisateurs, puis qu'est-ce qu'ils font, puis pourquoi ils sont importants pour nous.
Pourtant, très importants, oui, pour la biodiversité.
Oui, puis les gens ne savent pas jusqu'à quel point ils sont essentiels. S'ils sont plus là, il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra plus, s'alimenter. Alors, on va faire vraiment un clin d'œil sur les pollinisateurs pour cet automne. Et cet hiver, on va avoir le sentier des flammes. On l'a fait expérimentalement cet hiver et ça a très bien marché. Alors, on fait une expérience dans le boisé le soir avec une lampe frontale. C'est complètement différent du circuit nocturne de l'été, mais c'est vraiment, on part par petits groupes puis on se dit, comment vit la forêt le soir, l'hiver? Qu'est-ce qui se passe le soir et l'hiver dans la forêt? Alors, on fait vraiment découvrir aux visiteurs des choses vraiment exceptionnelles qu'on ne voit pas dans notre quotidien.
En tout cas, allez sur le site parce qu'il y a tellement de choses, parce qu'aussi, il y en a pour je pense à la relâche scolaire, je pense à toutes sortes des événements ponctuels. Alors, il faut aller sur le site du musée. Et puis, les gens à mobilité réduite aussi, quand même, il y a une accessibilité?
Oui. Au musée, durant le jour, c'est 100%. Le soir, il faut que ce soit vraiment, disons qu'on donne l'information aux gens quand ils nous appellent. Une chaise roulante qui est électrique, qui va par elle-même, ça va parfaitement bien. Sauf que les gens manuels, c'est un petit peu plus difficile. Mais les sentiers sont très beaux. C'est juste qu'à un moment donné, pousser une chaise roulante pendant une heure et demie.
Il y a toujours bien des limites, c'est ça.
C'est parce que c'est un peu plus difficile. Mais il y a des gens qui le font, puis ils sont très satisfaits. Puis c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut faire ça le soir en fauteuil roulant.
C'est
alors,
sûr.
Je pense que c'est déjà un bon point.
Parfait. Carole Bellerose, merci d'être venue nous parler de ce musée de la biodiversité dans la région de Bécancour. Alors, c'est à voir absolument. Au revoir et bon été à vous.
Merci beaucoup pour l'invitation. Bon été à tout le monde.
Au revoir. Et puis à tous, chers auditeurs, on se retrouve demain à la même heure entre midi et 13h. L'émission Aime l'été qui se poursuit. Ce sera notre dernière journée de la semaine. Alors, voilà. Bonne journée à vous tous. Ici Chantal Lavoie.